Bonsoir. Dans son dernier rapport publié hier mardi, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a recensé 143 violations de droits de l'homme liées au processus électoral en RDC. Ce rapport présente les répressions commises entre le 1er janvier et le 30 septembre 2015 contre l'opposition, les médias et la société civile. Rapport que rejette le gouvernement congolais. Quelle analyse faire de ce rapport sur le thème de dialogue entre Congolais de ce mercredi 9 décembre 2015? Pour en parler, je reçois dans cette émission pour les débats Abdoul Aziz Thioye, il est directeur adjoint du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Monsieur Aziz, bonsoir.
Bonsoir, chers auditeurs de Radio Okapi. Bonsoir, cher monsieur le ministre, monsieur le vice-ministre des droits humains et de la justice, ainsi que le professeur.
Merci, Monsieur Aziz. Comme annoncé, on n'aura plus le vice-ministre de la Justice et des Droits Humains dans cette émission. C'est plutôt Maître Bembaï, qui est conseiller juridique chargé des droits humains au ministère de la Justice, qui sera avec nous dans ce débat. Maître Bembaï, bonsoir. Alors, on me signale qu'il n'est pas encore en ligne. Il va nous rejoindre dans un tout petit moment. Et le professeur Maïla Chiembe, directeur de l'Institut panafricain de géopolitique dénoncé en France. Professeur, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Merci de nous suivre, partenaire RDC, sous la fréquence FM. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
143 violations de droits de l'homme liées au processus électoral en RDC viennent d'être recensées par les Nations Unies. Un nouveau rapport onusien étaye ces allégations publiées hier mardi par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Ce rapport présente la situation des répressions qu'elle juge inquiétante contre l'opposition, les médias et la société civile entre le 1er janvier et le 30 septembre 2015. Selon le représentant du Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme et du directeur et directeur du Bureau conjoint de l'ONU, il faut mettre en place des conditions qui permettent d'avoir un processus électoral crédible et apaisé sans violence. Les détails de ce rapport avec vous, Berry Louchaka.
Dans ce contexte, le Bureau conjoint des Nations Unies est en mesure de confirmer 8 atteintes au droit à la vie, 16 atteintes au droit à l'intégrité physique, 42 atteintes à la liberté et à la sécurité de la personne. À côté de cela, le rapport a documenté 27 atteintes à la liberté de réunion pacifique, 41 atteintes à la liberté d'expression ainsi qu'une atteinte à la liberté d'association. 111 cas relatifs aux membres des partis politiques d'opposition, 50 cas de la société civile et 22 cas des professionnels des médias ont été particulièrement ciblés par les agents de l'État dans le but de restreindre leurs activités, de les intimider ou de les dissuader d'exercer leur liberté fondamentale, note le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Ce rapport affirme que les principaux auteurs des violations documentées sont des agents de la police nationale congolaise, de l'Agence nationale de renseignement, agissant souvent en dehors du cadre légal de leurs fonctions. Selon ce rapport, c'est à Kinshasa que le Bureau conjoint des Nations Unies a documenté le nombre le plus élevé des violations des droits de l'homme et des victimes. Au moins 16 personnes, dont 2 femmes et 4 mineurs, ont été exécutées extrajudiciairement et au moins 64 personnes ont été blessées par des éléments de la police nationale congolaise, de la police militaire et de la garde républicaine dans plusieurs communes de la ville de Kinshasa entre le 6 et 22 janvier 2015. Ce rapport enseigne que la deuxième ville la plus touchée par les violations des droits de l'homme est Goma, où au moins 4 personnes, dont 2 mineurs, ont été exécutées arbitrairement et au moins 11 personnes, dont 6 mineurs, ont été blessées. Face à cette situation, le Bureau conjoint des Nations Unies recommande, entre autres, au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour ouvrir l'espace démocratique à travers le respect des libertés d'opinion, d'expression et de réunion pacifique et de contribuer ainsi à garantir la crédibilité du processus électoral. Parmi les recommandations faites aux partis politiques, le Bureau conjoint demande de ne pas recourir ni d'inciter à des actes de violence et d'instrumentalisation, particulièrement des groupes de jeunes.
Merci Berry Louchaka pour tous ces détails. Abdulaziz Tchoye, je rappelle que vous êtes directeur adjoint du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Vous vous êtes basé sur quoi pour affirmer les allégations contenues dans ce rapport?
Bonsoir madame, bonsoir chers auditeurs, bonsoir professeur. Permettez-moi d'abord de juste souligner en fait que le rapport qui a été publié hier à Genève et aujourd'hui à Kinshasa est les résultats d'une collecte d'informations qui a été menée sur une période assez longue. Vous connaissez la période du rapport entre le 25 octobre. Principalement, nous avons beaucoup travaillé entre le 25 octobre 2015 et le 27 novembre. Excusez-moi, je suis en train de vous raconter une histoire. Entre le 1er janvier, excusez-moi, et le 30 septembre 2015. Donc, les informations que nous avons collectées, qui ont fait l'objet de ce rapport, ont été collectées, suivant une méthodologie précise, rigoureuse, et avéré, éprouvé, que nous utilisons depuis de très nombreuses années et qui est obligatoire, un standard de preuve établi par l'Office du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et qui nous oriente dans le sens de toutes les informations que nous collectons sont vérifiées avec des sources indépendantes en vue réellement de pouvoir établir le maximum possible avec rigueur les informations que nous avons collectées. Alors, il s'agit simplement d'incidents que nous avons pour beaucoup documentés au cours de la période que j'ai indiquée et pour lesquels, évidemment, nous avons relevé un comportement inapproprié des agents d'application de la loi pour beaucoup. Il s'agit d'usage excessif de la force, d'interdiction de manifester, d'arrestation arbitraire ou illégale, et quelquefois également, pour beaucoup de cas, d'atteinte au droit à la vie, ce que nous avons qualifié dans le rapport d'exécution extrajudiciaire. Donc, pour dire simplement, ce ne sont pas juste, comme certains le disent, comme le gouvernement a semblé l'affirmer, de dénonciations calomnieuses. Il ne s'agit pas pour nous de ternir la réputation ni l'image des forces de défense et de sécurité, qui sont nos partenaires, parce que nous travaillons de façon très étroite avec les institutions nationales. Je rappelle que notre rôle premier ici en République démocratique du Congo est, par le biais de la coopération technique, de renforcer les capacités de l'État en vue de renforcer le système national de protection, renforcer le niveau de respect des droits de l'homme dans le pays. Donc, de façon très claire, c'est basé sur, comme je l'ai indiqué, des faits probants que nous avons relevés et qui ont été partagés avec le gouvernement à plusieurs reprises avant de faire l'objet d'une publication, d'un partage public. Voilà.
Alors, Abdulaziz, aussi, ces informations ont été partagées avec le gouvernement. Pourquoi ce dernier rejette ce rapport et le qualifie de contradictoire et imprécis, un rapport qui manque d'objectivité?
Le gouvernement est dans son rôle. Hein, je ne pense pas avoir vu un gouvernement qui reconnaît réellement les violations des droits de l'homme qui sont rapportées très souvent par les institutions internationales telles que la nôtre, hein, ou simplement par les ONG. Le gouvernement est dans son rôle. Évidemment, ce n'est pas toujours de gaieté de cœur d'avoir des rapports qui mettent en cause la responsabilité des institutions nationales. C'est quand même un peu quelque chose qui n'est pas, qu'aucun gouvernement ne saurait accepter, parce qu'évidemment, c'est perçu comme une façon de une atteinte à la réputation et à l'image du pays, surtout un pays qui s'est dit effectivement état de droit et un pays peut-être d'institution démocratique. Il est clair effectivement que c'est le gouvernement est dans ce rôle, nous le comprenons, mais je répète encore une fois que le rapport a été partagé. Je rappelle que nous partageons nos rapports sur une base hebdomadaire et mensuelle avec 17 autorités nationales. Je veux dire simplement que nous leur adressons les résultats de nos observations sur une base mensuelle. Et la transmission de ces rapports
et accompagné de réunions de discussion pour essayer d'adresser les manquements. C'est ce qu'on appelle le dialogue, pour essayer de réellement apporter les réponses appropriées aux écarts de comportement qui sont réellement constatés. Alors, le gouvernement remet en cause, mais ça c'est une vieille rengaine, hein, nous sommes habitués à cela. Le gouvernement souligne le fait effectivement que le rapport ne comporte pas de nom des victimes, ni d'adresse, ni de lieu de commission. Les lieux de commission sont, de ces violations-là sont clairement énoncés et déterminés dans le rapport, mais évidemment de façon très claire. Nous sommes assujettis au respect du principe de confidentialité pour des raisons évidentes de protection des victimes et des témoins. Donc, nous ne pouvons pas, dans un rapport public, mettre des noms des victimes, encore moins des noms de témoins,
ni
des ressources, de façon très claire. Alors,
je vous redonne la parole, Abdulaziz, le temps pour moi de recevoir Maître Bemba, qui est conseiller chargé de droits de l'homme au ministère de la Justice. Comme annoncé, on devait avoir le vice-ministre de la Justice et des droits humains. Malheureusement, c'est le conseiller chargé de droits de l'homme au ministère de la Justice qui prendra part à cette émission. Maître Bemba, bonsoir.
Oui, bonsoir madame.
Alors, le gouvernement rejette ce rapport du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Pourquoi?
Je vous remercie d'abord madame de l'opportunité que vous nous donnez d'échanger à l'intention des auditeurs de la radio Okapi sur le rapport qui a été publié par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Je voudrais d'abord rappeler que dans notre environnement immédiat, voire même un peu plus loin, il n'y a pas de pays qui ait accepté d'avoir sur le terrain la présence d'un représentant du haut commissaire. Le gouvernement congolais a accepté la présence du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme à Kinshasa, avec la possibilité pour eux, et c'est le cas, de travailler sur toute l'étendue du territoire national. Le but, c'est de collaborer. Collaborer avec le gouvernement pour que le droit de l'homme soit protégé et que la promotion des droits de l'homme soit assurée de la manière la plus efficace. Vous comprenez que l'État congolais, partant de cela, n'a aucun intérêt, vraiment aucun intérêt à cacher quelque chose. L'État congolais ne cautionne pas les violations des droits de l'homme. Et donc, tout ce que nous demandons au bureau conjoint, c'est une franche collaboration. C'est vrai que...
Est-ce que cette collaboration n'existe pas, cette franche collaboration n'existe pas entre le gouvernement et le bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme?
Et je vous explique pourquoi je l'ai dit. Parce que, apparemment, dans le fonctionnement du bureau conjoint, ce qui les intéresse, c'est de faire des dénonciations. Alors qu'il y a beaucoup de choses que le gouvernement peut faire avec le bureau conjoint. Parce qu'avant de dénoncer, c'est mieux de commencer d'abord par la prévention. Donc, une action, des actions en amont valent plus que les actions en aval. Alors maintenant, revenons au rapport. Le gouvernement a recueilli d'abord ces rapports. Le gouvernement a vu qu'il y a des recommandations. Le gouvernement les a aussi acceptées parce qu'il faut améliorer la situation des droits de l'homme. Il y a encore des choses à faire, mais en termes de collaboration, il arrive au gouvernement souvent de demander au bureau conjoint de donner des indications qui peuvent permettre à ce que les auteurs éventuels de ces faits-là soient poursuivis en justice. Parce que, ne vous méprenez pas, madame, que les auditeurs de la radio Okapi comprennent bien que lorsqu'on parle des violations de droits de l'homme, ça peut paraître bénin, mais en réalité, il s'agit des infractions que l'on met sur le dos des X ou Y. Alors, les professionnels du droit le savent. Qu'il y a un principe sacro-saint en droit pénal que l'on appelle la présomption d'innocence. une infraction peut se commettre. Celui qui a commis cette infraction ne peut être considéré comme ayant commis cette infraction qu'à l'issue d'un procès. Un procès se clôturant par un jugement définitif le reconnaissant comme étant coupable. Ici, ce n'est pas le cas. Le gouvernement a toujours demandé. Parlant de ces rapports, le ministre a écrit au procureur général de la République et à l'auditeur général de FARDC, leur demandant de vérifier chacun dans ses attributions si ces faits-là étaient avérés pour que les auteurs soient sanctionnés. J'ai dit ça a été fait et la lettre adressée au procureur général, la lettre adressée à l'auditeur général des FARDC les copies de ces lettres ont été réservées aussi au directeur du bureau conjoint. Donc, pour le gouvernement, dénoncer, oui, mais ça doit être dans le cadre d'une bonne collaboration. On ne doit pas soupçonner le gouvernement. Le gouvernement est un partenaire. Le gouvernement a accepté que le bureau conjoint soit ici pour une meilleure collaboration dans la prévention des droits de l'homme. Vous voyez, alors, maintenant, si on vous balance des rapports approximatifs indiquant, à la limite, le nombre de violations, et puis on indique non pas des individus, mais des corps. Je ne pense pas que ce soit acceptable. On vous dit, les éléments des FARDC ont commis des exactions. On vous cite un nombre et ça s'arrête là. Ça ne va pas. On ne connaît pas les victimes. On ne connaît pas ceux qui ont commis ces faits. Et comment le gouvernement peut-il agir?
Vous auriez souhaité que les noms...
Et c'est la raison principale du rejet.
Maître Mbemba, vous auriez souhaité que qu'on mette les noms de ces auteurs de violations de droits de l'homme dans le rapport?
Il est arrivé que dans certains rapports des Nations Unies, fait d'ailleurs par le bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, que les noms de X ou Y soient cités en tant qu'auteur présumé. Nous ne demandons pas qu'on dise qu'il a commis ces faits-là, mais qu'on dise au moins que ça a été, les faits ont été posés ou commis par X. Alors, partant de cette information-là, le gouvernement peut agir efficacement.
Merci. Alors, je vous redonne la parole, Maître Mbemba, professeur Mwaila Tuyembe. Je rappelle que vous êtes directeur de l'Institut panafricain de géopolitique de Nancy en France. Professeur, comment vous analysez ce rapport du bureau conjoint de Nations Unies aux droits de l'homme qui dénonce 143 violations de droits de l'homme de janvier 2015 à septembre 2015?
Bien, madame, après avoir écouté Maître Mbemba et le responsable des Nations Unies...
le directeur adjoint, monsieur Aziz.
Le directeur. Alors, on ne peut que regretter de voir que la bonne volonté à la fois des Nations Unies et du gouvernement est fondée sur des malentendus qui fait que chaque fois qu'un rapport a été établi sur les questions des droits de l'homme, qu'il s'agisse des organes subsidiaires des Nations Unies ou des ONG, Human Rights Watch ou autres, il y a des coups de menton directement, donc montés des surenchères entre le gouvernement de la République démocratique du Congo, soit avec les ONG, soit avec les organes subsidiaires des Nations Unies. Et pourtant, quand on entend Maître Mbemba, on a la sensation qu'il y a une prise de conscience du gouvernement de la République démocratique du Congo, non seulement d'accepter les instruments internationaux auxquels est parti ce pays, le fait même d'accepter que cette délégation du bureau conjoint des Nations Unies soit au Congo, sillonne le pays, participe à l'élaboration des rapports, c'est une question de confiance entre les deux parties. Et le regret consiste à dire que si vraiment cette base de confiance mutuelle, le gouvernement congolais a l'obligation constitutionnelle de garantir les droits fondamentaux et les libertés individuelles. C'est dans la Constitution, c'est dans les instruments internationaux auxquels la République démocratique du Congo est partie. Et les Nations Unies ont mis à disposition de ces organes subsidiaires ce qu'on appelle le pouvoir d'alerte ou le pouvoir de dénonciation. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que ces organes, travaillant à l'intérieur de la République démocratique du Congo, à tort ou à raison, lorsqu'il leur semble des faits prouvés ou non, les mettent à la disposition du gouvernement congolais avant même que le rapport ne soit rendu public, avec l'idée de compromis, d'explication, dialogue constructif entre le gouvernement congolais et ses organes et la bonne foi. Alors, s'il y a dialogue entre le gouvernement et ses organes ou ses organisations quand il s'agit des ONG et la bonne foi, on devrait normalement cheminer vers un compromis. Parce que M. Bemba a reconnu que le gouvernement est d'accord sur le principe que les recommandations de ce rapport puissent être minutieusement étudiées pour voir s'il y a lieu, le cas échéant, si ces faits sont avérés en termes de délit ou de crime, le cas échéant, que les auteurs soient identifiés, traduits devant le juge, parce que c'est le juge seul qui a qualité à charge et à décharge de dire qui est coupable et quelles sont les sanctions pénales prévues par la loi congolaise et les instruments internationaux. Alors, cette bonne foi que l'on partage ce soir entre M. Bemba, qui représente le ministère de Justice et des Droits Humains, et le responsable du Bureau des Droits de l'Homme des Nations Unies, aurait dû normalement fonder les deux parties, aller vers ce compromis, parce que les Nations Unies ne font que rappeler la République démocratique du Congo à ses obligations. Et le gouvernement est dans la bataille quotidienne, difficile, de pouvoir faire respecter les droits de l'homme, non seulement par les forces de l'ordre, par l'armée, par la police, mais également par les citoyens sur l'ensemble du territoire national. Il est vrai que les choses ne sont pas faciles, mais il faut chaque fois demander à ce que raison soit gardée et de la part des Nations Unies et de la part du gouvernement congolais.
Alors, professeur, vous avez parlé tout à l'heure de confiance entre les deux institutions, mais on constate là, après avoir écouté M. Aziz et Maître Bemba, confiance, oui, mais il n'y a pas une franche collaboration entre ces deux institutions, finalement.
Mais c'est ce qu'on peut déplorer, parce que l'État congolais et les Nations Unies sont dans le même bateau. La République démocratique du Congo est membre des Nations Unies. Les représentants des Nations Unies ne sont pas des ennemis de la République démocratique du Congo qui viennent ternir son image comme parfois on l'entend à brûle-pourpoint. Il s'agit d'une organisation internationale universelle des Nations Unies dont la République démocratique du Congo est un État membre. La République démocratique du Congo est un État démocratique, même si nombre de Congolais n'en sont pas convaincus. Défendre les droits de l'homme et les respecter, c'est une entreprise difficile. Chaque fois qu'il y a des manquements, réels ou supposés, l'intérêt de la République est de retourner vers les Nations Unies, d'examiner de vive voix, point par point, d'identifier les personnes qui auraient commis ces infractions ou ces délits, et rechercher les voies et moyens, le cas échéant, de les punir, c'est-à-dire de les traduire devant les juridictions. C'est à la fois l'intérêt des Nations Unies et l'intérêt de la République démocratique du Congo.
Merci, professeur. Monsieur Abdulaziz, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Kavumu, au sud Kivu.
John Shibandi Bitoroa, depuis Kavumu, au sud Kivu. Quelles sont les techniques utilisées par ce bureau pour confirmer ces résultats? A-t-il été élaboré pour montrer et réprimer celles les autorités congolaises? Je pense que ce rapport n'est pas le premier à être publié par ce bureau et oublie de montrer les échecs des Nations Unies dans les massacres de Beni au nord Kivu perpétrés par les ADF Nalu depuis un certain temps. Ainsi, quelles sont les pistes et les solutions proposées par ce rapport pour prévenir cette situation dans les prochaines échéances électorales de 2016 en RDC?
Monsieur Abdoul, comment vous répondez à cet auditeur?
Merci beaucoup, madame. Je voudrais juste, si vous permettez, que je salue un peu les précisions qui ont été apportées par le professeur Mouyela. Je salue au passage aussi Maître Bemba qui nous a rejoint et je retiens juste une chose, que à écouter Monsieur Bemba, je pense que tout le monde conviendra effectivement que nous sommes pratiquement en train de dire à peu près la même chose. Ce qu'il conteste en réalité, c'est un peu la méthodologie qui est utilisée. Et j'ai expliqué les règles de confidentialité et la protection qui est due aux sources, aux victimes et aux témoins, de façon très claire.
Mais il a dit tout à l'heure qu'il y a des rapports que le Bureau concernant les Nations Unies publie avec des noms dedans. Pourquoi cette fois-ci, on n'a pas mis les noms?
Je répète encore une fois, je ne parle pas d'auteur, je parle de sources. Je parle de victimes, je parle de témoins. Donc lui parle d'auteur, de nom d'auteur. Moi je parle de nom de victimes, je parle de nom de témoins, je parle de nom de sources. C'est ce que réclame le gouvernement, de que nous révélions aujourd'hui nos sources, les victimes et les témoins. C'est ce que je suis en train de dire. De façon très claire, il y a eu des procédures, des cas emblématiques, des procédures judiciaires qui ont été ouvertes par la justice congolaise. Sur la base de nos rapports à nous, les rapports qui ont été établis par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Et ça, le ministère le sait, Maître Bemba le sait pertinemment. À chaque fois qu'il s'est agi pour la justice congolaise de se saisir d'un cas ou des cas rapportés dans nos rapports, nous avons communiqué le détail des informations qui sont contenues, le détail contenu plutôt dans les rapports que nous avons rendus publics. Pour dire simplement que, comme je l'ai indiqué, un rapport public n'est pas le lieu approprié pour mettre ces détails-là. Évidemment, le gouvernement reçoit un rapport beaucoup plus détaillé, qui donne beaucoup plus d'informations et qui permet d'agir. Encore une fois, nous ne menons pas des enquêtes judiciaires. Ce n'est pas la responsabilité du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme de mener une enquête judiciaire. Nous faisons un travail de surveillance. Maître professeur... Le professeur l'a rappelé de façon très claire. Ce que nous faisons, nous le faisons pour le gouvernement. Parce que le gouvernement ne peut pas être partout et ne peut pas savoir tout ce qui se passe. Nous n'avons jamais dit que l'instruction a été donnée par un ministre, ni l'instruction a été donnée par le chef d'état-major pour le général de la police. Dans toute institution, vous avez certains individus ou des acteurs qui pensent réellement ou qui outrepassent leurs prérogatives, qui usent et abusent de leur pouvoir, et voilà, ça occasionne des violations des droits de l'homme. Et il est dans l'intérêt de l'autorité de le savoir et de pouvoir prendre les actions. Parce que, comme on dit, c'est un adage que nous connaissons tous, un individu ou un groupe d'individus ne devrait pas conduire à ternir l'image de toute une institution. C'est simplement ça. Et nous avons eu des discussions très franches, nous nous rencontrons régulièrement avec les ministres, avec les vice-ministres, avec M. Bemba, pour discuter et des voies et des moyens réellement d'appuyer les institutions nationales.
Alors, vous allez répondre maintenant à la préoccupation de cet auditeur.
Voilà, pour revenir à la question de l'auditeur, qui j'ai plus ou moins répondu parce que sa question touche un peu à la méthodologie.
Oui, c'est vrai, vous dénoncez, mais quelles sont les solutions proposées par le Bureau conjoint des Nations Unies pour prévenir ce genre de situation dans les jours à venir?
C'est que nous avons le but du rapport, je pense que ça a été rappelé ce matin longuement par le directeur du bureau conjoint, qui a rappelé réellement le but de ce rapport, qui est juste de lancer une alerte, d'alerter les autorités congolaises, d'alerter les médias, les partis politiques, les acteurs politiques en général et la communauté internationale, mettre tout le monde devant ses responsabilités par rapport à une situation qui est en train de se développer et qui, si rien n'est fait, pourrait déborder sur des violences généralisées. C'est ce que nous avons dit, de façon très claire. Lancez l'alerte. Donc,
vous lancez juste l'alerte.
Les recommandations sont très claires. Ce que nous disons, les recommandations que nous adressons aux autorités congolaises, vous les lirez, ce sont des recommandations pour des mesures à prendre de façon très claire. Nous adressons également des recommandations aux médias, aux acteurs politiques, pour plus de responsabilité. Nous leur rappelons que, réellement, l'exercice d'un droit ne doit pas aller à l'encontre des lois et règlements établis. il faut respecter les dispositions de la Constitution qui disent, oui, vous pouvez manifester, mais de façon pacifique. Pas d'appel à la violence, pas d'utilisation de jeunes, pas de manipulation, c'est ce que nous disons. Donc, on est dans le sens de la construction. Un appel et des recommandations constructives pour réellement un respect de l'ordre public, un respect des lois et des règlements.
Merci.
Permettez-moi juste de préciser, à la communauté internationale, nous disons d'appuyer les forces de défense et de sécurité, en particulier la police, pour que la police puisse faire face à ses responsabilités de maintien de l'ordre. On ne fait pas du maintien de l'ordre avec une Kalachnikov. On le fait avec des outils un peu plus appropriés, mais pas d'utilisation de munitions qui peuvent réellement entraîner des pertes en vie humaine. De façon très claire, c'est ce que nous disons.
Merci, M. Abdoul Aziz. Maître Mbemba, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Kinshasa.
Didier Serge Moustang, je vous appelle de Kinshasa. Il ne suffit pas de tout rejeter en bloc, mais il faut démontrer en quoi cela n'est pas vrai. Quel intérêt la Commission des droits de l'homme des Nations Unies aura-t-elle à seulement mentir ou à calomnier un gouvernement aussi souverain? Il est vrai qu'il y a des problèmes. Il suffit d'observer le traitement réservé aux membres du G7. Pour conclure, ce qui peut arriver à tout celui qui voit les choses autrement que le pouvoir de Kinshasa. Malheureusement, ce n'est pas en ce sens qu'on considère la démocratie, encore moins un état de droit.
Réaction, Maître Mbemba.
Merci beaucoup à M. Serge pour son observation, qui ne semble pas être une question. Ceci m'amène quand même, comme en guise de réponse, de répondre à M. Aziz. Vous lui avez posé la question sur les sources, sur la manière dont les informations ont été collectées. Je pense que les auditeurs et vous-même, vous l'avez suivi. La réponse n'a pas été très claire. Alors, je rappelle que le gouvernement ne rejette pas le rapport en bloc. Que M. Serge m'entende bien. Le gouvernement ne rejette pas tout en bloc. Le gouvernement demande tout simplement des indications qui peuvent lui permettre d'agir efficacement. Parce que, je l'ai dit et je le répète maintenant, que lorsqu'on parle de violation des droits de l'homme, ceci en droit pénal s'appelle infraction. Et l'État ne peut agir prioritairement que par l'entremise d'une action pénale. Alors, M. Aziz dit, nous cachons le nom des victimes, mais le gouvernement a besoin des noms des auteurs présumés. Alors, si la collaboration est franche entre le bureau et le gouvernement, pourquoi le bureau cacherait au gouvernement les noms des auteurs? C'est ce qui nous amène, c'est ce qui amène le gouvernement à qualifier ces rapports d'évasifs, d'approximatifs et d'imprécis. C'est même à se demander si ce rapport est objectif. Parce que tout le gouvernement, le bureau conjoint est là pour collaborer avec lui à la promotion et à la protection des droits de l'homme. Bon, vous, partenaires, vous vous rendez compte d'une violation des droits de l'homme qui se commet quelque part. Vous avez les informations et sur la victime et sur l'auteur présumé de ces faits-là. Dans toutes les réunions que nous avons avec le bureau, nous n'arrêtons pas de demander seulement ces éléments-là. Vous voyez? Et le devoir auquel nous sommes soumis, je vous ai dit que le ministre a écrit au procureur général concernant ces rapports-là, au procureur général et à l'auditeur général, leur demandant de chercher maintenant à travers toute la République pour trouver qui sont les auteurs de ces faits-là. Mais notre collaborateur, le bureau conjoint, a ces éléments-là. Pourquoi il les cache? Et le gouvernement, partant de cela, est en droit de croire que ce sont des faux rapports qui ne sont pas basés sur des faits vrais.
Monsieur Maître Mbemba, vous avez demandé clairement au bureau conjoint de Nations Unies aux droits de l'homme de vous donner les noms de ces présumés auteurs. Ils ont refusé?
Ils ne donnent jamais. C'est ça le problème. Et même quand ils élaborent leur rapport et que le gouvernement leur opposent des arguments valables. Ils n'intègrent jamais cela dans leur rapport. Voilà. Donc c'est pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas là au milieu. Le gouvernement a accepté la collaboration, mais de l'autre côté, ce sont des rapports qui sont publiés à temps et à contre-temps sur des bases non vérifiables.
Mais le rapport est envoyé avant une publication au gouvernement, quelques jours avant la publication officielle. On envoie le rapport au gouvernement pour qu'il soit informé de ce qui sera publié.
Merci beaucoup, madame. Le rapport est envoyé. Le gouvernement demande au procureur général et à l'auditeur général de vérifier les faits. Parce qu'on considère que personne n'a le droit de mettre en péril le droit des autres. Le gouvernement est conscient de son devoir de protéger, de promouvoir et de respecter le droit de l'homme. Quand il reçoit une information, aussi imprécise soit-elle, dans ses responsabilités, il dit « j'ai fait vérifier ». Pourquoi il y a une telle précipitation à publier tant que les enquêtes n'ont pas encore pris fin? Pourquoi une telle précipitation à publier tant que le partenaire ne vous a pas encore donné sa réponse pour dire « nous avons vérifié, vous avez parlé de 143 ». Ou 123, ou 111, mais voici ce que nous avons exactement trouvé, et voilà les personnes en question sont traduites en justice. Vous savez, avant ces rapports, il y a eu deux derniers rapports du haut commissaire, élaborés par le bureau conjoint. Dans ces rapports-là, le bureau conjoint reconnaît même qu'il y a une avancée significative dans le domaine de la lutte contre l'impunité.
C'est dit aussi dans le rapport.
Dans ce pays, il y a des généraux qui se sont vus être condamnés. Lorsqu'on condamne un général d'armée,
mais le rapport,
qui pensez-vous qu'on peut encore protéger dans un pays?
Le gouvernement congolais n'a rien à cacher. Le rapport salue les avancées significatives dans ce sens. C'est dit dans le rapport. Le rapport ne dénonce pas seulement, mais salue aussi les avancées significatives en matière de lutte contre les violations de droits de l'homme.
Cette reconnaissance est une bonne chose. Maintenant, est-ce que nous devons nous contenter de dire, voilà, ici on nous a félicités, et de l'autre côté, il y a des faits qu'on ne sait pas vérifier, donc on croise les bras? Non. Le gouvernement demande d'avoir des éléments.
Merci, Maître Bemba. Professeur Moïla, il y a aussi une réaction pour vous qui nous vient de Bukavu, au sud Kivu.
Robert Bahomé de Bukavu, au sud Kivu. Les faits relevés dans les rapports du bureau conjoint de l'ONU aux droits des hommes sont fondés. Mais à l'instar des rapports précédents similaires, il y a risque que ces rapports se limitent à la seule critique négative de l'exercice des droits de l'homme en RDC. Encore faudrait-il que l'ONU propose concrètement au gouvernement congolais des stratégies beaucoup plus claires pouvant l'amener à respecter comme il se doit les droits de l'homme si elle veut bien contribuer à l'amélioration de ceux-ci. D'ailleurs, ce qui serait intéressant.
Réaction, professeur.
Disons que le rapport fait des recommandations. Les recommandations, ce sont des propositions destinées au gouvernement congolais. L'ONU ne peut pas se substituer au pouvoir de rendre justice qui relève de la souveraineté de la République démocratique du Congo. Par conséquent, l'ONU se contente de révéler ou de présenter des situations et c'est au gouvernement congolais. Je voudrais dire à Maître Bemba, avec beaucoup de respect, que les Nations Unies n'ont pas le droit de mener des instructions judiciaires en République démocratique du Congo, qui est la compétence souveraine des tribunaux congolais. Un rapport n'est pas une instruction judiciaire. Le gouvernement congolais serait mal placé d'exiger des Nations Unies ses sources. Les Nations Unies peuvent donner des états de situation. Il appartient aux juridictions nationales congolaises de rechercher, à partir des bribes d'informations réelles ou supposées fournies par les Nations Unies, pour identifier. Il n'appartient pas aux Nations Unies de mener une instruction judiciaire en République démocratique du Congo. Donc, par conséquent, les recommandations ce ne sont que des propositions. Naturellement, le rapport les fait et il appartient au gouvernement congolais, la tête haute, de regarder ces recommandations. C'est l'intérêt même de la paix civile, de la sécurité de la République démocratique du Congo. Si il advenait demain que le gouvernement, prenant conscience de ses responsabilités, examinait point par point les recommandations avec les Nations Unies ou avec d'autres institutions sécuritaires, c'est au meilleur des intérêts de la République et de la population congolaise. Donc il ne faut pas se tromper des cibles. Je comprends bien que lorsque ces rapports sont présentés, l'effet médiatique peut parfois heurter la sensibilité du gouvernement en matière d'image, etc. Mais comme vous venez de l'indiquer tout à l'heure, le rapport est équilibré, parce que le rapport souligne les efforts réels du gouvernement congolais en matière de lutte contre l'impunité, c'est incontestable. Alors, il faut vraiment dépasser cette querelle de boutique entre le gouvernement et le Bureau des Nations Unies chargé des droits de l'homme, parce que tout le monde va dans le même sens. C'est l'intérêt des Nations Unies d'aider un État membre, c'est l'intérêt de la République démocratique du Congo de bénéficier des services de ce bureau conjoint des Nations Unies chargé des droits de l'homme. La querelle est tout à fait mal placée et on ne peut même pas invoquer ni la souveraineté de la République démocratique du Congo ni autre injonction qui serait tout à fait déplacée, parce que et les Nations Unies et la République démocratique du Congo recherchent la même chose, la sécurité, la protection des droits de l'homme et des citoyens de ce pays, la République démocratique du Congo.
Merci, professeur Moïla Tchiembe. On considère cela aussi comme votre conclusion. Abdoul Aziz, vous allez devoir aussi conclure. Qu'est-ce que vous avez à dire à tous ces auditeurs qui nous suivent en ce moment partout en RDC?
Aux auditeurs, mais surtout, je remercie le professeur pour ces précisions-là qui réellement permettent de clarifier un peu certaines positions exprimées par Maître Bemba. Je voudrais dire juste ceci, que la partie, notre travail de reporting, de monitoring et de reporting, d'observation, de surveillance de la situation et d'établissement de rapports est la partie la plus visible de notre travail, qui en réalité ne représente que 30% de ce que nous faisons comme travail. Ce que nous dépensons comme énergie et ressources en termes d'appui structurel est beaucoup plus important. Maître Bemba est venu aux affaires il n'y a pas très longtemps. Je pense que s'il est de bonne foi, il devrait pouvoir reconnaître réellement que nous avons travaillé.
Merci, Monsieur Abdoul. On n'a plus beaucoup de temps. Désolé de vous interrompre. Maître Mbemba, votre conclusion.
Merci beaucoup, Madame. Je dirais en conclusion que la République démocratique du Congo est un modèle en matière d'exécution de recommandations des Nations Unies en matière de droits de l'homme. Vous noterez, comme nous l'avons dit au début, que le bureau conjoint représente ici sur place le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme pour la protection des droits de l'homme. En dehors de ça, il y a une commission nationale des droits de l'homme qui a été instituée, émanation totalement de la société civile, pour enquêter sur la situation des droits de l'homme. Il y a une cellule de protection.
Merci. Merci, Maître Mbemba. C'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe de Dialogue entre Congolais, mon studio programme sur la fréquence de la paix.